sur Radio B. Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales culture et handicap, musique contemporaine. Résonance, une nouvelle émission pour vous et avec vous, pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas, ou ce qui ne se voit pas. Invention à deux voix vous propose des séries d'entretiens avec des personnalités du monde artistique, littéraire, philosophique, sociologique ou politique. Aujourd'hui, Invention à deux voix avec le compositeur Lucien Guérinel. Plus de 130 œuvres écrites, composées depuis Divertissement pour cordes en 1958, des œuvres données dans 17 pays étrangers, Angleterre, Allemagne, USA, Australie, Chine, Russie, Pologne, 8 disques monographiques, 5 disques collectifs entre 1983 et 2015. Il cultive l'écriture musicale et l'écriture poétique en écho, en rebond de l'une de l'autre, se nourrissant réciproquement. Lucien Guérinel nous livre ainsi sa vision intérieure, sa personnalité intérieure, son regard, sa lecture de notre monde à travers sa musique et sa poésie. Passionné, généreux, animé d'une grande sensibilité et inventivité, homme de goût, amoureux de la rencontre, une pensée en mouvement, indépendante, rigoureuse, exigeante, nourrie d'une remise en cause permanente. Lucien Guérinel est une personnalité qui nous semblait absolument essentielle d'accueillir dans le cadre d'Invention à deux voix. Résonance sur Radio B, Invention à deux voix, avec Lucien Guérinel. Bonjour Lucien Guérinel.
Bonjour Alain.
C'est un très grand plaisir de vous accueillir dans le cadre de cet entretien, Invention à deux voix. Et dans le livre que j'ai sous les yeux, Lucien Guérinel, Le lac et le bosquet, une suite d'entretiens déjà, avec des personnalités importantes aussi de la musique et du regard sur la musique, en l'occurrence Jean Roy, Marcel Marna. Et ce livre est paru chez Sigart, faite en 2006. Et je voulais justement, au démarrage de cet entretien, reprendre certains de vos propos, notamment quand vous évoquiez ce qu'était pour vous la musique. Et vous disiez, la musique, ce n'est pas seulement des notes ou de l'application esthétique ou une carte à un parti. C'est un feu qui peut nous brûler vif, mais un feu de haute mythologie. C'est une cordée permanente, d'autant plus rude qu'on est seul. Les doigts saignent sur le roc. Fin de citation. Alors il me semble que ce propos laisse bien transparaître combien votre manière de dire à travers la musique est quelque chose qui vous anime au plus profond de vous et qui vous confronte finalement en permanence à l'homme qui se déploie au fur et à mesure des années. Et c'est aussi un feu qui alimente avec force une vie intérieure.
Certes, je crois que la vie, la définition de la vie, c'est un feu intérieur. Et la biologie ne fait pas tout. Elle est le support sacrée et suprême de notre existence, mais elle n'est qu'un support. Alors au-delà, il y a le mystère de la partie de cette physiologie qui se passe dans la tête, et pour le moment, on n'a pas encore complètement élucidé cette affaire. Bien. Mais enfin, elle est belle, donc il est donné à chacun de s'en servir. Et au plan musical, comme au plan poétique ou sur les réflexions de la vie en général, je crois qu'effectivement, il faut porter ce feu, il faut mériter cette existence. Il faut la mériter autant que faire se peut, bien sûr, avec nos moyens, nos lacunes également, parce qu'il y en a. Et ce feu à porter, surtout quand on ose aborder, comme je l'ai fait moi-même, depuis l'adolescence, l'univers musical, qui est un univers redoutable, j'ai parlé du rock à main nue, ce n'est pas pour rien, et je continue de le penser comme ça, malgré mon grand âge. Et effectivement, cette aventure nous expose à des risques, il faut savoir prendre les risques, surtout quand ils sont inoffensifs pour les autres, bien sûr. Mais ces risques, ça, c'est le prix, justement, d'une existence telle que, en tout cas, personnellement, je l'ai approché et qui perdure, donc, puisque ça fait quand même une expérience qui a plus de 60 ans, en réalité, hein, d'essai et de travail. Et voilà, alors donc sur le propos que je tenais à cette époque-là, je n'en reprends rien parce que je crois qu'il résume, pour moi du moins, mais enfin je crois quand même pas que pour moi, il résume effectivement la part de l'effort, de la mise en face d'une difficulté à vaincre, à surmonter, car il y a toujours dans une tentative la part intime, personnelle, qu'on peut qualifier d'orgueil ou de dignité, de tout ce qu'on voudra, enfin des mots qui se juxtaposent et qui forment le caractère de chacun, et que forcément quand on tente quelque chose, c'est qu'on espère arriver à en faire quelque chose. Je ne connais pas d'exemple contraire. L'alpiniste qui se prépare à vaincre un sommet redoutable, c'est pas pour s'arrêter à mi-chemin.
Justement, quand vous parliez, je garde la métaphore de l'alpinisme, mais vous parlez effectivement d'une cordée permanente, donc rebondissons dessus, d'autant plus rude qu'on est seul. Alors, est-ce que serait à dire aussi que le fait de s'aventurer ainsi dans cette cordée permanente de l'écriture musicale, de la composition, creuse-t-elle la solitude ? Nous confronte-t-elle tellement justement à cet effort d'aller nous chercher au plus profond de nous-mêmes dans ce rapport de nous à nous, si je peux dire, de soi à soi?
Oui, intimement, je vous répondrai oui. Oui. En tout cas, c'est mon cas. Je crois pas que ce soit mon cas à moi tout seul, mais enfin, peut-être que d'autres, comment dirais-je, travaillent dans une autre condition psychologique. Je ne sais pas, je peux pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. En tout cas, pour ce qui me concerne, je sais au moins ça, c'est que je le souhaite d'ailleurs, cette solitude, parce que le temps n'est pas à partager à ce moment-là, sinon avec justement un objectif qu'on se fixe, qui n'est pas un objectif matériel à proprement parler, ce n'est pas, il n'y a pas en vue un gain de quoi que ce soit, mais il y a une espérance de réalisation de quelque chose qui vient de soi. Ça oui, sans doute. Je ne crois pas que ce soit une prétention, c'est simplement une espérance. Elle porte ou elle ne porte pas. En tout cas, moi, c'est ce qui me porte, puisque je récidive depuis longtemps. J'ai fait 140 œuvres. Et c'est une part de solitude nécessaire qui n'est pas reprochable, je crois. Elle nous amène à une concentration autant que faire se peut, comme chaque personne dans la vie se concentre sur ce qu'il fait, et pas même en dehors de l'art, proprement dit. Et bon, on se concentre sur ce que l'on fait, et la difficulté, après, bon, c'est l'affaire de chacun. Et c'est également un concept général qui déborde largement celui qu'on limite au terme d'art.
Oui, je prendrais justement par exemple pour être en rebond et puis pour dire que peut-être celui qui s'aventure dans cette recherche d'inventivité, de créativité, d'une part peut-être c'est une manière d'aller à la recherche de qui suis-je, où suis-je, quand suis-je, Donc c'est peut-être aussi le premier aspect. Et là-dessus, je voudrais mettre un écrivain en rebond à vos propos. Il s'agit de Bernard Noël. Et lui aussi évoque finalement que quand on écrit, on est complètement seul. Mais cela ne veut pas dire que cette solitude est nécessairement dramatique. Et là, je pense qu'il fait tout à fait écho à ce que vous venez de nous dire. C'est une solitude à facettes multiples. Je ne sais pas pourquoi la condition de l'écriture, c'est l'isolement. Peut-être parce qu'il faut affronter. Peut-être que l'écriture est la dépression dont les rapports difficiles à exprimer, mais c'est un voisinage dangereux. Or, c'est un peu délicat de parler de ce danger-là. Voilà un petit peu comment lui, il évoque à sa manière, bien sûr, dans ce rapport d'écrivain.
Ce propos est excellent, bien sûr.
Et je pense qu'il fait assez, effectivement, écho à ce que vous venez nous... à vos ressentis aussi.
Oui, mais c'est exactement ça, je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà. Alors, après, de la solitude, il faut en faire quelque chose. C'est la tentative, et la tentation d'abord, et la tentative de faire quelque chose. Oui. Alors, en musique, comme dans n'importe quel objet de créativité, il faut... je dirais pas qu'on part de rien, parce que on me reprocherait d'annuler comme l'enfant qui dirait qu'il n'est pas allé à l'école ou qu'on lui a pas appris à parler. Il faut bien qu'il y ait quelque chose au départ.
Il y a culturel, il y a la famille.
Nous apprivoise, voilà. On nous élargit nos facultés d'expression au fur et à mesure, après aux êtres adultes d'en faire ce qu'ils peuvent en faire.
Il y a un contexte social et culturel qui nous entoure, quel que soit l'individu.
Absolument. Donc il faut tenir tout cela comme... un engrangement qui peut avoir d'aventure une production, mais pas quantitative. Le quantitatif n'est pas d'intérêt majeur, je crois. Il y a quelques compositeurs qui ont écrit très peu de choses, comme c'est le cas de... j'ai oublié son nom maintenant... Duparc, qui n'a écrit en somme, à part quelques autres œuvres dont on ne parle jamais, mais qui a écrit un cycle de mélodies, de, je crois, 13 mélodies, et qui font sa grandeur. Et il n'a pas fait de la quantité, cet homme. Il s'est arrêté d'abord parce qu'il avait des troubles psychiques, voilà, et qu'ils l'ont arrêté. Il est resté comme hébété, si vous voulez, mais sa production, pour limitée qu'elle soit, est d'une grandeur. Presque inégalable dans ce raccourci.
Ça veut dire que peut-être ce temps de rapport, comme on disait, à la solitude, ce rapport du temps aussi, c'est-à-dire le travail, recommencer sur le travail, remettre le chantier, c'est aussi petit à petit chercher ce que pourra être finalement, ce que pourrait être sa voie personnelle, déterminer ce que pourra devenir, et effectivement sa voie personnelle dans ce travail de création.
C'est sûr, à chacun d'en juger, bien sûr. Alors celui qui juge de soi, de lui-même, il est exposé encore plus à l'erreur que quand il juge les autres. Et bon, c'est un risque, bien sûr. Et il y en a qui les... Bon, le cas de
d'Henri Duparc
est significatif, mais il n'y a qu'eu quelque chose de pathologique. Manifestement, c'est connu. Donc il s'est arrêté, il ne pouvait plus composer. Mais il y a un autre cas qui est aussi célèbre d'ailleurs, mais qui n'est pas du même rapport par rapport à la biologie. C'est celui de Sibelius qui s'est arrêté parce qu'un jour il a décidé qu'il n'avait plus rien à dire. Il est resté 30 ans, donc il a survécu 30 ans à cette suspension de son travail. Évidemment, avec le recul du temps et en connaissant sa musique un peu mieux d'ailleurs, parce qu'elle est restée longtemps dans l'ombre, on se demande pourquoi cet homme s'est arrêté. C'est vraiment une question que je qualifierais de douloureuse pour lui, mais comme pour nous. Pourquoi un homme qui est arrivé à son sommet à lui s'est arrêté? Il avait, me semble-t-il, encore à dire quelque chose. Et pourtant, il s'est arrêté, il n'a plus rien fait. C'est un exemple célèbre. Et bon, ben ça donne lieu à une réflexion, peut-être d'autres. Je ne connais pas la vie de chacun, même en musique. Je n'ai pas un dictionnaire dans la tête, mais une encyclopédie. Mais je pense que d'autres compositeurs également se sont limités.
Ça renvoie peut-être, là aussi je vais emprunter les propos, on va garder aussi les rapports écriture et musique justement, et là cette fois-ci d'un écrivain portugais, poète aussi également, Antonio Lobo Antunes, qui lui aussi aussi, finalement, nous amène un peu sur ce terrain que nous approchons, sur, par exemple, sur qu'est-ce que on écrit parce que l'on veut dire. Pour bondir par rapport à Sibelius et aussi à ce que vous venez de dire. Et la plupart du temps, on ne sait pas très bien ce que l'on veut dire. On veut dire, c'est tout.
Mais voilà une phrase qui peut s'appliquer tout particulièrement à moi, parce que voilà. Là, je ne peux pas tout dire dans une émission, mais mon cas est très particulier. Je n'ai pas fait l'université musicale comme la totalité des compositeurs, des gens qui sortent de
vous
rien.
Vous avez suivi
ça
un
n'existe
chemin.
Pas. Moi, c'est un chemin... D'ailleurs solitaire, hein, bien sûr. Et j'ai fait autre chose dans la vie, donc.
Oui, on peut rappeler que la médecine a tenu une place importante.
Le poète portugais dit est très bien parce que parce qu'on ne sait pas tout à fait ce que l'on veut dire ou ce que l'on peut dire. Donc, ou on arrête par découragement, ou ce qui est mon cas,
on persévère,
je me suis au contraire presque enragé entre guillemets pour essayer d'aller plus loin, sachant que je n'avais pas la qualité fondamentale qu'on prête à tous les écrivains, de quel ordre que ce soit, y compris pour la musique et surtout pour la musique,
qui
est un langage particulièrement délicat, hein, de manipulation, puisqu'il ne s'agit plus des mots, mais d'un univers physique sonore. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait applicable à moi cette phrase de ce poète.
Il semblait qu'elle pourrait, voilà, tout à fait.
Oui, mais voilà, il se trouve que, ayant fait des petits pas d'enfant dès l'âge de 15 ans, et j'en ai aujourd'hui plus de 85, ça fait quand même une sacrée distance.
Complètement.
Donc, où on peut, je ne dirais pas féliciter, mais rendre hommage à
cette
ma
persévérance, tout à fait.
Où on peut dire que j'ai manqué de lucidité, ça. Mais... Je laisse à chacun la place de sa réponse.
Mais du coup, vous parliez de ce parcours de 15 ans à plus de 85 ans. Si on remonte un petit peu dans le temps et si on essaye aussi d'approcher ensemble sur quoi s'est fondé finalement ce besoin de dire, et notamment ce choix à travers la musique, on évoquera aussi la poésie, bien évidemment, qui est un des autres aspects de votre manière de dire, justement. Il y a des détonateurs qui ont existé. Et je voudrais peut-être des détonateurs qui, du coup, ont été des déclencheurs, ont engendré aussi pour vous des envies, des dynamiques, peut-être aussi éclairci des sentiments, des ressentis enfouis, parfois ombreux. Et je pense notamment à un des détonateurs que vous exprimez dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, de ces entretiens avec Jean Roy et Marcel Marna, où vous évoquez justement la deuxième symphonie de Ludwig van Beethoven, et que la rencontre avec une œuvre, un homme, une pensée, pour vous était déterminante. Et vous écrivez justement à ce propos-là, de la deuxième symphonie de Ludwig van Beethoven, « Sans cette écoute-là, je n'aurais véritablement jamais tenté de composer. » Car n'ayant pas de culture apprise, il fallait un tel détonateur pour me faire passer dans le fantasme des petites grenouilles admirant le bœuf. C'est ainsi qu'un beau jour, de 1945, je décidai de commander du papier à musique à un magasin marseillais.
Oui, c'est exactement ça, et c'est le raccourci, le résumé d'une vie, d'une longue vie, et... Je suis persévérant, j'essaie, je parlais tout à l'heure de, quand on fait quelque chose, de l'orgueil qu'on peut ressentir. Bon, de toute façon, l'orgueil est un sentiment qui est incontournable, dans la mesure où on redonne à ce mot sa véritable signification. Je ne parle pas de vanité, la vanité c'est l'horreur, l'orgueil c'est autre chose, c'est plus subtil. Bon, alors, laissons l'orgueil, mais en tout cas... L'espérance de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, c'est une... Oui, on peut dire que c'est un petit coup de folie, ça, de toute façon. Et ce coup de folie, bon, étant donné qu'il n'est pas meurtrier, je le trouve plutôt légitime. En tout cas, pour une fois, moi qui doute de tout, et avant tout de moi-même, je me félicite de cette opiniâtreté. Je pense que c'est peut-être le point fort de ma vie.
Peut-être aussi,
voilà,
oui.
Tout simplement. C'est pour ça que je suis parvenu à l'âge que j'ai maintenant, et jusqu'à présent, je n'ai pas perdu la ferveur qui me pousse. Bon, après, la question du jugement ne m'appartient pas. J'ai des sentiments, j'en éprouve, bien sûr. Je pourrais faire un commentaire, une conférence sur ce que j'ai écrit. D'ailleurs, en ce moment, j'ai écrit un livre sur mon œuvre, grâce à l'amitié d'une rencontre parisienne. Et oui, on peut parler de son œuvre, et pourquoi pas ? Dans la mesure où on en parle avec la lucidité, la modération et la, la gravité, si je puis dire, de ce qui est obligatoire quand il s'agit de ce que l'on fait soi-même. Mais il n'empêche que, voilà, j'en suis arrivé là.
Alors, et la deuxième symphonie de Beethoven.
Alors, la deuxième symphonie de Beethoven, oui, alors.
Elle a amené un détonateur.
Je vais même
finalement
vous dire une anecdote qui ne manque pas d'intérêt. Ouais. Le jour où, avec ma femme, nous avons rencontré Maurice Ohana. Mm-hmm. Nous étions encore à Marseille à cette époque-là. C'était dans les années 80, tout début des, fin des années 80.
Hein. Maurice Ohana, précisons que c'était un des grands compositeurs français.
Tout à fait.
Qui nous a quittés il y a déjà un certain nombre d'années.
Oui.
Mais qui a marqué véritablement le courant de l'écriture musicale.
Une des grandes figures, voilà, de la musique française. Comme il n'était pas tout à fait dans la ligne générale,
certes,
de ce qu'on appelle une époque. Alors, il est évident qu'il, je ne dirais pas qu'il a été marginalisé, mais pas loin.
Mais pas loin.
Ce qui est quand même stupéfiant quand on voit, qu'on entend surtout, la qualité de sa musique, sa perfection formelle et surtout la personnalité qu'elle a dans
force,
un monde donné.
Voilà.
Hein,
ouais,
il n'a pas reculé devant les courants, les choses du temps. Hein. Le temps, ça bouge. Mais il a quand même gardé une personnalité qui lui est propre. Sa musique se reconnaît entre mille. Donc, il a véritablement une carrure, cet homme. Alors, la première fois que nous l'avons rencontré, on est allé dîner au restaurant, tout de suite, sans autre forme de procès. Et au restaurant, on a longuement parlé, comme vous pouvez l'imaginer. Et à un moment donné, la conversation est venue sur Beethoven, et il a sorti cette phrase. Beethoven, c'est pas la neuvième, c'est la deuxième.
Alors,
j'ai rien dit, hein, je ne l'ai pas raconté, ma petite anecdote.
Bien sûr.
Mais ça m'a traversé comme une flèche. La deuxième. Et par cette deuxième symphonie de Beethoven, où là il commence à être lui-même Beethoven, que moi j'ai gardé le souvenir de quelque chose qui m'a littéralement, je ne dirais pas catapulte, il ne faut pas exagérer, mais qui m'a fait sortir un petit peu de ma petite condition d'enfant, parce que j'étais petit quand même, hein, quand j'ai écouté ça, c'était pendant la guerre, donc dans les années 30-40. Hein.
Et on sent bien que justement quand cette deuxième symphonie de Beethoven est offerte au public, monstre mal dégrossi, rageant, frappant en vain autour de soi de sa queue agitée. C'était une manière-là dont certains critiques, en découvrant cette deuxième symphonie de Beethoven, se sont exprimés, justement, en découvrant, donc, précisons, cette symphonie numéro 2, en ré majeur, opus 36, qui a été créée le 5 avril 1806 à Vienne. Et on voyait que, comme vous le disiez, justement, écrite à partir de 1802, c'est une année de crise où déjà la surdité de Beethoven commence
à se manifester,
à s'aggraver assez subitement. Et donc, cette œuvre, elle naît aussi là-dedans. Vous parliez de Maurice Ohana. On peut souligner aussi, et là, c'est pas un fait anodin, je trouve, que Debussy lui-même ne préférait lui aussi la deuxième par rapport à la neuvième.
Certainement.
Donc voilà, on voit bien qu'il y a
quelque chose
dans cette œuvre-là qui recèle d'énergie particulière et qui fait que, on parlait de détonateur tout à l'heure,
absolument,
elle peut représenter un choc.
À cette époque-là, je ne savais pas ce que pensait Debussy. Bien sûr, mais enfin, c'est pour ça que je vous ai raconté cette anecdote.
Tout à fait.
Parce
qu'elle
signifie quelque chose.
Alors, je voudrais justement parler de détonateur. Et là, on va l'entendre. Il y a aussi Béla Bartók, 1945. Et là aussi, c'est quelqu'un qui vous a fasciné par la beauté de son contrepoint, les lignes mélodiques, un chromatisme aussi réinventé. Et je vous propose justement d'entendre l'Allegro, donc du quatuor numéro 4 de Béla Bartók, interprété alors par l'excellent, le vertigineux, même je dirais même, quatuor Weg. Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec le compositeur Lucien Guérinel. Et là, nous venions d'entendre, Lucien Guérinel, cet autre détonateur qui a été pour vous aussi Béla Bartók, avec ce quatuor numéro 4 et cet allegro, des œuvres qui ont été enregistrées par cet excellent quatuor Weg dans les années entre 1972, 1986 et 1997. Mais des enregistrements qui n'ont pas vieilli par rapport à cette musique.
Non, bien sûr, le quatuor Weg reste dans l'histoire du quatuor à cordes en général et comme un des sommets de réflexion.
Tout à fait. Ouais.
De qualité de rendu dont on a pu mesurer l'importance dans ce quatuor, qui est lui-même une œuvre qui découragerait tout le monde, en réalité. Hein. Mm. Bon, mais enfin, il faut passer outre, parce que sinon, il y a tellement de gens qui nous décourageraient de faire quoi que ce soit qu'on ne ferait plus rien. Alors, bon, il faut garder. La vie est trop sacrée pour qu'on la limite comme ça à des soumissions que je qualifierais d'intempestives, même si mon admiration pour Bartók n'a toujours pas fléchi, même avec mon grand âge. Donc, effectivement, ce sont des œuvres qui dominent, il n'y a pas de doute là-dessus, dans un courant qui, déjà à cette époque-là, marquait quelques faiblesses, quelques tendances vers une sorte de stéréotypie esthétique qui a duré assez longtemps. Mais bien avant, il y avait encore quelqu'un comme Bartók et quelques autres. Hein,
oui, bien sûr.
Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que le traditionnaliste Dimitri Shostakovich, on peut entendre ses symphonies.
Et ses quatuors aussi, d'autant plus.
Et ses quatuors, bien entendu, le 8e en particulier.
Voilà, qui sont assez exceptionnels.
Voilà. Et ça n'empêche pas d'admirer ces œuvres que l'on qualifie encore aujourd'hui de trop contraintes par la tradition. La tradition n'est pas un objet de rejet.
Tout à
C'est
fait.
Le poids de la mémoire. Mmh. Et si on enlève la mémoire, on n'est plus rien. Ça n'empêche pas qu'on aille ailleurs.
Alors justement, je vais revenir encore un petit peu sur une certaine partie de vos propos que je mettais en introduction à cet entretien, quand vous évoquiez les doigts saignent aussi sur le roc, disiez-vous tout à l'heure. Alors, est-ce à dire que la main, les doigts résistent? La main ne vous échappe pas? Elle ne fait pas ce qu'elle veut? Ou y a-t-il un moment dans l'acte d'écriture où la main devient fluide, les doigts libres d'inscrire la pensée?
Je ne sais pas ce que je vais répondre à ce que vous venez de dire. Je vais peut-être un peu contourner, je ne sais pas.
Mais c'est le jeu de l'entretien.
La main, effectivement, là, utilisée à titre métaphorique, c'est ce qu'on pense savoir faire. Hein. Et le savoir-faire, c'est quand même quelque chose de très sérieux, ça, sur le quoi on ne peut pas plaisanter. Donc, je m'abstiendrai de parler du mien, de savoir-faire. Jamais je ne pourrai discourir ou prétendre à quoi que ce soit. Je vis avec ce que je fais. J'espère que dans ce que je fais, il y a quelque chose qui indique qu'une main, une vraie main, comme vous venez de le faire avec votre geste, qui n'est pas perceptible à l'écoute radiophonique, existe, je le souhaite, bien sûr, mais souhaiter quelque chose, ce n'est pas quand même répondre comme par une affirmation.
Oui, tout
donc
à fait.
Ça, je ne peux pas, je m'en garde bien. Mais le fait de poursuivre un trajet aussi long que le mien, alors est-ce que je suis, par rapport à la métaphore de l'escalade de la montagne, est-ce que je suis à mi-pente, à tiers de pente ou aux trois quarts d'une pente? Il n'y a pas de hauteur définie. C'est l'avantage de l'art sur les montagnes, peut-être. Alors, sans être dans les nuages, je plaisante, pardonnez-moi. Voilà, je ne peux pas répondre à ça. Je fais... Bon, c'est une escalade à plat, si je puis dire. Mais ça empêche que le roc est dur et qu'on fait saigner ses doigts. Mais bon, ça se soigne, les saignements de doigts. Et dès que ça va un peu mieux, on reprend le porte-plume et on continue.
Oui, on continue.
Ou on abandonne éventuellement,
Bien sûr.
On parlait des abandons, cela peut exister, bon, ce n'est pas mon cas, justement, malgré ma faiblesse constitutive sur le plan musical, mais bon, c'est très bien comme ça.
Bien sûr.
Ça, je trouve que c'est très bien comme ça, c'est en tout cas le prix de ma vie.
Est-ce que parfois aussi, il y a ce que vous investissez dans l'œuvre, bien sûr, qui est en chantier, qui s'écrit, qui... comme on vient de l'évoquer, au gré des doigts, de la main, de la pensée, se traduit sur le papier, tout cet univers se traduit. Et est-ce que l'œuvre dit ce qu'elle veut dire ou à un moment donné aussi, elle dit ce qu'elle ne veut pas dire ?
Sans doute, effectivement, une double part, une double face.
De l'intention qu'on y met, mais en même temps de ce qu'elle révèle d'autre.
Oui. Est-ce que l'artiste, en général, est toujours le strict dominant de ce qu'il fait, ou dans ce qu'il libère, et vous avez parlé d'une appréciation sur la peinture.
Oui, tout à fait.
À ce propos, est-ce que, ou à partir de ce qu'il libère, peut-être qu'il se dépasse lui-même, je dirais pas sans le savoir, mais avec quelque chose qui n'est pas directement dans la conscience. Donc le subconscient existe, c'est une chose intéressante. Le subconscient. Il y a des gens qui font leur métier là-dessus. Oui, je crois qu'il y a... De toute façon, il y a toujours une part mystérieuse, dans toute la vie d'ailleurs. Même pour élever un enfant, je crois qu'il y a quand même du mystère. Alors pour faire une œuvre, il y a également une part de mystère.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix, avec le compositeur Lucien Guérinel. Et là, Lucien Guérinel, avec tout ce que nous venons de dire, là, c'est votre musique qui parle, c'est votre musique qui dit, et qui dit justement, en plus, vous allez y venir en nous faisant part un peu plus précisément du texte, justement, de l'écrivaine, puisque là, c'est au féminin. Et là, c'est prendre corps, pour le titre de l'œuvre, deux voix féminines, Anne-Emmanuelle Davy, Caroline Géret, et puis un quatuor, on évoquait le quatuor à cordes, là aussi un quatuor à cordes, Tercea, mais là aussi un quatuor féminin. Donc la femme au cœur du sujet, à la base de l'écriture et à l'interprétation complète.
Oui, effectivement, je l'ai souhaité comme ça. Parce que l'auteur du poème, André Chédid, nous parle dans ce poème, un long poème, dont j'ai extrait évidemment une partie, une grande partie, mais une partie, c'est donc la... mon titre.
Prendre corps.
Prendre corps, c'est le sien. C'est son titre, et elle va de la première strophe que j'ai utilisée jusqu'à celle que nous venons d'écouter, du drame de la naissance, car c'est un drame, et c'est une femme, et elle en parle en termes très crus, arrachée au silence, à l'eau sans épines, aux plages assourdies, à la forge sans feu, au cercle humide et pourpre. Elle est très, très révélatrice, une femme peut parler comme ça. Et la huitième strophe que j'ai utilisée de son long poème, celle que nous venons d'écouter, dit ceci. D'actes en actes, préfaçant ta longue nuit, quand tu sombres à perdre haleine, quand l'écho te déserte, à force de pas assemblés, de paroles en épi, soudain, vêtu d'étoiles, tu arpentes tout l'espace. Tu viens. Et je trouve cette strophe absolument admirable pour désigner l'instant de la vie où l'homme arrive lui-même à son point culminant. Il va de la naissance, il ira à la mort, comme chacun, et là, il a atteint son pic. C'est-à-dire l'homme dans sa dignité, dans sa grandeur, il est hors jeu du mauvais jeu, si je puis dire, pour être dans soi-même, dans ce que la vie peut espérer que soit chaque être. Avec son point culminant, parce qu'il y a les efforts à faire, les combats à mener, les difficultés à vaincre, etc. Tout n'est pas simple dans une vie, je n'apprends rien à personne, mais il y a quand même un moment dans la vie qui n'est peut-être pas toujours le même pour chacun, et qui est ce moment où, dit-elle, soudain vêtu d'étoiles. Ça, c'était
exceptionnel aussi.
Absolument merveilleux d'avoir trouvé cet assemblage de mots extrêmement simple. Soudain vêtu d'étoiles, tu arpentes tout l'espace. Un être humain qui est enfin le monde.
Complètement. Complètement. Et là, il y a quelque chose d'essentiel aussi dans ce qu'elle dit. Et quel propos d'une femme, je veux dire, évoquant aussi cet acte de naissance, justement, ce vécu très intérieur, et de trouver la justesse de ces mots, à la fois simples, comme vous le disiez, hyper poétiques aussi, à des moments effectivement crus, ne cachant pas le ressenti propre, dur,
tout à fait, anatomique.
Anatomique de l'acte de naissance, et qui révèle avec une puissance et quelle sensibilité aussi le fait de ce que vous en avez fait, ou en tant qu'homme. Homme pas porteur de naissance, mais justement peut-être avec ce côté de sensibilité féminine aussi quelque part, si on ne peut pas donner naissance.
Oui, elle en avait une belle sensibilité. Elle vivait encore quand j'ai écrit.
Quand vous l'avez, voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, donc elle a pu écouter ce que j'ai écrit. Elle m'avait fait part de son sentiment.
De son sentiment, oui. Alors, on parle de l'enfance. Ça me semble un peu presque tout à fait de propos pour entendre une petite pièce, justement, alors, qui appartient à... Aujourd'hui, bien sûr, on ne revisite pas l'ensemble du catalogue, mais vous avez beaucoup écrit aussi pour le piano. On vient d'entendre la voix, les cordes, et puis la liaison poétique. Et là, il y a un futur disque qui va sortir prochainement sur l'intégrale de vos œuvres pour piano. Je vous propose, chers auditeurs, de découvrir ces petites pièces. Thank you. Résonance sur Radio B, invention à deux voix, avec le compositeur Lucien Guérinel. C'est Jean-Louis Roblin, ami et depuis longtemps à vos côtés, qui justement est au piano, est à la manœuvre, et qui nous fait vivre aussi cette musique d'enfant, pour enfant, puisque c'était tout à fait ça le désir.
C'est une musique... Oui, musique, pièce pour enfant.
Pièce pour enfant.
Ça veut dire quoi? Qu'ils doivent se mettre au piano pour la jouer. Celle-ci est injouable par un enfant.
Ça
sera pas le grand écart. On va de l'extrême aigu à l'extrême grave. Donc, déjà, physiquement, l'enfant ne peut pas l'atteindre. Donc, c'est pour dire qu'une pièce pour enfant est une pièce pour enfant.
C'est ça.
Qui a un caractère d'enfant. C'est comme si on parle à un enfant. Voilà, tout ça. D'ailleurs, dans cette petite pièce qui dure très peu de temps.
Voilà.
Il y a, au milieu, si je puis dire, du clavier, la réitération d'un intervalle, qui est l'intervalle de, qu'on appelait dans la musique classique tonique dominante, donc qui force un peu le côté banal choses, mais qui est une réalité, c'est presque un axe, et qui à la fin se traduira dans le grave, parce qu'il y a toujours un petit côté grave, mais au sens métaphorique du terme, qui devient une tierce. Voilà. Et puis tout le reste, ça papillonne, donc dans tous les sens, c'est très court, et il me semble qu'on peut qualifier cette pièce d'amusante.
Tout à fait, complètement.
Si c'est
pleine
pas amusant,
de jovialité.
Je n'ai rien réussi de ma vie.
Pleine de jovialité, justement.
Oui, bien sûr. Elle est extrêmement légère, au sens propre du terme. Voilà, alors voilà ce que j'appelle une... Enfin, en tout cas, celle-là, je l'ai choisie avec vous, pour la faire entendre dans notre rencontre. Parce qu'elle me paraît caractéristique de la définition d'une musique pour enfants. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, mais c'est ça.
Alors, souvent dans vos propos, les mots de curiosité, liberté, rêve, sont des mots qui reviennent très 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 souvent dans vos propos.
Oui, parce que je pense que la part de rêve dans la vie est une chose déterminée, déterminante. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à le penser. Il y a eu déjà des poètes arabes du 7e ou 8e siècle qui en ont parlé très bien. Et puis il y a eu surtout l'exemple de Shakespeare qui dit que la vie est comme un tissu auquel se suspendent les rêves. Donc pour lui, tout le songe d'une nuit d'été d'ailleurs, c'est cela.
C'est ça aussi.
Et voilà, ce rêve est une part, on pourrait presque dire, réelle de la vie. Voilà.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec Lucien Guérinel. Là aussi, on poursuit avec dans ce futur disque, double disque même, sur l'intégrale de vos œuvres pour piano. Et là, on découvre encore toute cette profondeur, toute cette sensibilité, toute cette. On a évoqué les doigts sur les rocs, mais aussi cette profondeur et ce rayonnement aussi intérieur également qui en échappe aussi. L'idée qui affleure, l'idée qui prend forme, qui essaye de dire.
Oui, et d'autant plus, si je puis dire, que cette pièce, elle avait été écrite pour un concours japonais dont l'exigence était de s'appuyer, si j'ose dire, sur quelque chose de Bach, Jean-Sébastien, le grand Jean-Sébastien. Donc, il fallait absolument qu'il y ait
ce point de référence.
Un point d'appui, donc une citation, enfin bref. Ça avait été pour moi une très grosse surprise, ça. J'ai quand même joué le jeu, j'ai refeuilleté un peu les pièces de clavecin bien tant préféré, et j'en ai pris un bout, un morceau, un sujet de fugue. Et ici, je défie qui que ce soit de le retrouver.
Je pense.
Parce que je l'ai tellement bien caché. Mais il existe.
Mais il existe quand même.
Oui, j'ai joué le jeu quand même. J'ai joué le jeu. Je triche jamais quand même. Mais j'ai assez caché ce thème pour qu'on ne le reconnaisse absolument pas.
C'est ça.
Même les musiciens qui savent tout, ils verront pas que là, il y a
le thème de Bach. C'est ça.
C'est comme ça que je le voulais, parce que ça ne me plaisait pas qu'un concours se repose sur une telle exigence. Moi, j'aime pas ça. Voilà. Ça vous restreint, ça vous. Voilà. Mon sens de la liberté, il est allé.
Il était là aussi.
Vous en voulez, je vais vous en mettre, mais à ma façon.
À votre façon.
Et donc, on le reconnaît pas. Voilà. Alors, effectivement, c'est une pièce de rêverie, ça. Hein.
Complètement.
Je peux pas dire moins. Mais malgré tout ce que je viens de dire, vers la fin, il y a un tintement comme un tintement de cloche, de carillon dans le lointain.
Oui.
Et ça, c'est un salut lointain à Bach.
À Bach.
Mais ça, il n'y a que moi qui le sais. Et vous.
Absolument. Et nos auditeurs
et
aujourd'hui.
Nos auditeurs, bien sûr.
Peut-être on arrive bientôt au terme de cet entretien, Lucien Guérinel. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne la force, l'énergie, je dirais encore, d'aller de l'avant?
Eh bien, je vais surprendre tout le monde en disant qu'est-ce qui me donne l'énergie d'aller de l'avant, c'est moi-même. Voilà. Je suis surpris d'avoir atteint l'âge que j'ai aujourd'hui. Je pensais que ça serait plus court que ça. Je ne vais pas raconter le détail de ma
bien
vie
sûr.
Médicale. Mais voilà, ça a été ça. Alors, je ne peux répondre tout simplement, naïvement, si je puis dire. Il n'y a pas d'arrière-pensée. D'ailleurs, je n'ai que des pensées, pas d'arrière-pensée. Ça, j'aime pas.
Et je vous en remercie.
Et c'est ça. Voilà, j'ai au fond de moi, sans doute, une énergie, un feu, puisque c'est le mot par lequel
vous avez commencé tout à fait.
Donc cette énergie, il faut bien croire qu'elle me soutient quelque part.
Ce feu est là.
Il est là, et bon, j'en remercie le destin. Je suis. Alors, je n'ai plus la même énergie, bien entendu, au plan de la composition. Ne parlons pas du reste, bien sûr, mais enfin, je marche quand même.
Tout à fait.
je n'ai plus tellement la disponibilité, si vous voulez, physico-intellectuelle pour. J'en ai peut-être plus tellement envie. Je compose moins. Enfin, j'ai encore un petit quelque chose sur la planche.
Et puis voilà, c'est ça qui est en chantier quand même.
Oui, mais enfin, je peine beaucoup. Ouais. Mais bon, j'ai écrit quand même la bagatelle de 140 heures.
C'est ce que j'allais dire.
Pour quelqu'un qui a fait quand même toute autre chose dans la vie.
C'était quand même extrêmement dense et
important.
Je trouve
que c'est déjà pas mal. Alors évidemment, le nombre n'a pas d'intérêt dans la production d'un être, encore que. l'abondance de l'œuvre de Haydn, n'a absolument aucune incidence sur la qualité hors pair de sa musique. Donc là, c'est le cas extrême où la quantité et la qualité se sont conjuguées tout au long de sa longue vie. Hein. Bon, alors pour revenir à mon cas beaucoup plus modeste, je ne pense pas que j'ai perdu du temps en route quand même. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein.
Nous arrivons donc au terme de cet entretien, Lucien Guérinel. Merci pour ce moment si intense et privilégié. Et donc cette émission, je dirais, comme en son habitude, a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr nous réécouter quand vous voulez, où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez ou le désirez, la présente émission, la podcastant, sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée sur Radio B.